Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
En France, 40% environ des mariages se soldent par une séparation, un chiffre qui a doublé ces 40 dernières années. Chez les catholiques pratiquants, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe une à deux fois par mois, le nombre de divorces serait deux fois moindre. Mais l'augmentation des divorces chez les catholiques suit la même courbe que celle du divorce en France. C'est ce qu'indique le Service national Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Ceux qui restent fidèles à leur sacrement de mariage malgré la séparation font figure d'OVNI. Comment y parviennent-ils? Quelles sont les joies et les difficultés d'une telle fidélité? Quels sont aussi les fruits? Nous en parlons aujourd'hui avec les invités de Radio Présence. Comment rester fidèle à son sacrement de mariage malgré la séparation? C'est la question posée à mes deux invités ce matin, tous deux membres de la communion Notre-Dame de l'Alliance, Marie et Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Merci de venir témoigner sur Radio Présence de votre foi et de votre vie. Du 6 au 8 avril, vous avez vécu à Lourdes votre premier pèlerinage. Il était destiné aux personnes mariées, vivant seules à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Les dates de cette première édition coïncidaient avec la fête de l'Annonciation. Quel rapport entre le oui de Marie et votre situation ?
Ben effectivement, le oui de Marie, en fait le choix de la fête de l'Annonciation a été, je dirais, pensé, réfléchi par les chapelains de Lourdes, dont Anne-Guillaume Vernecht, qui nous a proposé d'organiser ce pèlerinage à Lourdes. Et en réfléchissant bien, elle m'a dit, mais pour votre charisme, pour le message que vous apportez sur l'alliance indissoluble du mariage, je ne vois qu'une seule date, la fête de l'Annonciation, qui reprend finalement le oui que Marie a donné à Dieu pour recevoir le Christ, le Messie. Et ben, le oui que vous avez donné à votre mariage est de même nature en fait. Hein, on s'engage à vie comme Dieu s'est engagé à vie avec l'humanité. Voilà donc la genèse de ce positionnement du pèlerinage de l'Alliance à Lourdes, pour se remettre dans l'ambiance, je dirais, en mémoire, ce oui que l'on a donné non seulement à notre mari, mais aussi à Dieu, devant Dieu.
Mmh. Alors je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie. Nous la connaissons bien, hein, cette formule que les fiancés prononcent le jour de leur mariage. Pour vous, quand vous vous êtes mariés, que signifiait ce mot fidélité, Marie ?
Alors la fidélité, c'était un mot que je devais prononcer, qui était effectivement pensé, mais je n'ai pas mesuré ce oui jusqu'au bout. C'est un chemin que j'ai dû prendre et que j'ai approfondi au fur et à mesure de l'épreuve. Et ce oui aujourd'hui n'est pas le oui du jour de mon mariage.
Ça a évolué. Emmanuel, comment vous voyiez cette fidélité le jour de votre mariage ?
Alors, le jour de mon mariage, mon épouse et moi, parce que j'en avais discuté avec mon épouse, ce oui était définitif. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment mariés devant le Seigneur. Alors, on n'était pas vraiment, franchement ni vraiment pratiquant, ni vraiment croyant à l'époque de notre mariage. On avait largement laissé tomber la pratique religieuse bien avant, depuis notre adolescence jusqu'au mariage. Donc vous voyez qu'on a été à l'église plus par tradition, pour faire plaisir aux parents. Parce que aussi, alors ça c'est aussi vrai, parce qu'on voulait donner aussi une dimension, une grande dimension à ce mariage. On estimait tous les deux que le mariage était important. C'est un projet de famille qu'on portait avec des enfants, avec une vie jusqu'au bout ensemble. Donc ça, oui, c'était une réalité. Bon, Dieu était un petit peu loin de tout ça, c'était pas notre préoccupation première. Mais notre engagement était quand même total l'un vers l'autre. Même si le Christ était un petit peu disparu dans les nuages, notre engagement était ce vœu, ce souhait de faire une vie jusqu'au bout, était réel. Et malheureusement, après, il en a été autrement. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et avec le temps et les épreuves liées à votre séparation, comment cette notion de fidélité a-t-elle évolué ?
Alors, cette notion de fidélité est venue, je dirais, d'abord avec Parce que dans mon cœur, déjà, dès le départ, j'avais envie de rester fidèle jusqu'au bout avec mon épouse, parce que je m'étais marié avec elle. Il faut être vrai. Et donc, comme j'étais vrai au moment de mon mariage, je ne vois pas pourquoi je serais faux après. Donc, ce oui, il a été donné une fois pour toutes, point barre. Mais ce n'est pas un oui sur lequel je m'accroche, c'est un oui qui, est fondamental en moi et je pense que pour mon épouse aussi, puisqu'elle-même ne s'est pas remariée. Mais c'est simplement notre incapacité de communication, de vivre ensemble, de pouvoir échanger qui a créé notre séparation. Hein, et ça, il est hors de question qu'on se remette pour l'instant ensemble dans une vie conjugale. Mais donc, ce oui, elle a été donnée vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de... sincérité, oui, d'entièreté de ma personne, même si Dieu était vraiment très très loin encore à l'époque. Mmh. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Oui, oui, mais... merci. Marie, aujourd'hui, cette fidélité, vous la voyez comment? C'est toujours ce oui au fil de l'eau, au long cours?
C'est un oui qu'il a fallu approfondir. La conversion y a été pour beaucoup, pour comprendre, pour en mesurer la profondeur. Voilà. Et j'ai compris que le Christ était là. Et que ce Christ, finalement, c'est... J'ai dit oui à mon mari devant lui. Et j'ai compris que j'ai évolué. J'ai découvert que finalement, c'est moi qui ai demandé ce sacrement. Et que je n'allais pas me renier moi-même. Et donc, je n'allais pas me renier moi-même et je n'allais pas renier le Christ. Donc, je suis restée, et ce oui, je me suis accrochée au Christ comme ça.
Et oui. Sur quel texte de l'Écriture le principe de fidélité repose-t-il?
Alors, au niveau de l'Écriture, nous, on a retenu un passage de Saint Matthieu.
Moi, je suis fidèle.
Voilà, c'est ça. Selon Saint Matthieu, c'est le chapitre 19, hein, évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 19. Donc je reprends juste les quelques versets qui vraiment nous concernent. C'est à partir du verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme et dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquèrent, « Mais pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur. » De la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné.
Marie, vous voulez ajouter peut-être une autre référence, un autre texte?
Notre référence, c'est juste la parole de Dieu qui dit « Si vous êtes infidèle, moi, je resterai fidèle. » Et donc, effectivement, par rapport à cet homme qui est parti, moi, j'avais le Christ devant mes yeux, et ben moi aussi, je vais te rester fidèle. Voilà.
C'est important pour vous, la fidélité de Dieu, cette continuité de sa fidélité?
Ah ben, c'est la base de tout, en fait. C'est ça qui nous tient aujourd'hui tous au sein de la communion. C'est parce qu'on sait que Dieu est là, le Christ est présent, jour après jour, et nous mène et nous guide pour affronter la journée et sans cet homme ou cette femme sur qui on pensait s'appuyer pour vivre.
Pour vivre, voilà. Emmanuel.
Oui, c'est important. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est fidèle. Et donc, plus on veut avancer vers cette intimité avec le Seigneur, intimité avec Dieu, ben plus on doit correspondre à cette image. Alors, on y correspond aussi par grâce, évidemment, mais il faut notre volonté. Et si notre désir est d'aimer Dieu et de s'approcher de lui, eh ben, il faut faire cet effort, en tout cas cet effort de compréhension. Et si la grâce vient, effectivement, la fidélité devient intuitive, devient naturelle. Et on l'a fait pour le Christ et par le Christ, hein, et en Christ, je dirais. Parce que c'est cette fidélité en Christ qui nous amène à être fidèles à notre sacrement du mariage et à être fidèles à notre conjoint.
Mmh. Vous avez évoqué, Emmanuel, ce terme de volonté. Quelle part la liberté et la volonté prennent dans cette fidélité qui est pour vous un chemin ?
Alors la volonté, c'est, je dirais, c'est notre liberté. La volonté, c'est on est libre, on est volontaire pour agir. Et ça, c'est une grâce de Dieu qui nous est donnée de choisir, en fait. Hein, choisir la vie, choisir la mort, voilà. Donc nous, on choisit la vie parce qu'on estime que la vie, c'est la parole de Dieu. Donc il y a déjà ça qui nous bouscule. On dit, mais si Dieu a dit ça, c'est pas pour rien quand même. Il y a une base solide. On y fait confiance, on fait foi à la parole de Dieu. Par contre, ça nous perturbe parce qu'on se dit, mais je suis quand même seul. L'autre est parti des fois avec quelqu'un d'autre, a une autre vie, etc., etc. Et moi, je me retrouve tout seul. Et là, la grâce vient quand même. Si on est dans cette décision de rester fidèle à la parole de Dieu, ce serait étonnant que Dieu ne réponde pas à notre décision et à notre choix libre. Et à ce moment-là, c'est dans cette décision que vient une nouvelle liberté, cette liberté des enfants de Dieu. On s'aperçoit qu'il est bien présent en nous et que ça nous est le plus important, c'est qu'on le sente avec nous et tous les jours de notre vie, hein, et qui nous maintient dans cette fidélité.
Marie.
Et pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, précisément, dans mon chemin à moi, c'est je fais un pas vers le Christ, il en fait 100 pour moi. Donc ça, je l'ai expérimenté et c'est un peu ce... j'ai été un ancien responsable de la communion, je leur dis, essayez, expérimentez, vous verrez. Moi, je ne peux que être témoin de ce que j'ai vécu. Voilà. Vous ne le saurez jamais si vous ne faites pas ce petit pas-là.
Ouais, et ce petit pas-là, c'est ce pas de volonté, mais dans la liberté,
absolument,
vous n'êtes pas contraint.
Absolument, ce qu'il vient de dire.
Oui, ce n'est absolument pas un devoir moral qui nous pousse à faire cela. C'est la foi dans la parole de Dieu, de la parole de l'Ancien Testament qui déjà parle du mariage indissoluble. Hein, le mariage naturel est par nature déjà indissoluble. Donc c'est sur la foi de Dieu et de la parole du Christ, où là on est baptisé en Christ et on est appelé à être à l'image du Seigneur, qu'on fait ce chemin-là. Et que c'est un très beau chemin. C'est un chemin de témoignage, c'est un chemin de missionnaire aussi pour témoigner du Christ par ce biais-là, parce que ça va à l'envers des idées du monde, évidemment.
Oui, on ne se le cache pas. En préparant cette émission, vous m'avez fait part, Marie, de cette notion de vertige, le fait de choisir de vivre la fidélité malgré la séparation dans votre mariage. Vous me disiez, parfois, on est face à ce oui qu'il faut tenir jusqu'au bout et avec cette notion de vertige.
Oui. Lorsque on vient de se séparer et qu'on se dit voilà, je vais mener ça avec mes enfants, j'avais des enfants bas âge, j'avais moins de la quarantaine, c'était vertigineux. J'ai dit mais jamais je ne tiendrai. Et c'est ce que dit Emmanuel, j'ai fait le pari du Christ. J'ai dit c'est moi qui ai demandé ce sacrement, voyons maintenant, est-ce que lorsque j'ai vraiment découvert qu'il était là par ses paroles de ce livre, est-ce qu'il sera vraiment là ? Donc oui, c'est vertigineux, ça, on ne se le cache pas, mais le chemin est possible avec le Christ.
Voilà, le chemin est possible avec le Christ et vous avez utilisé ce mot de grâce. Comment recevez-vous cette grâce du Christ pour être fidèle malgré tout ?
Comment on la reçoit Le Christ n'est pas ingrat, c'est que quand on fait un pas vers lui, comme disait Marie, il en fait 100 vers nous. Et donc, quand vous obtenez la grâce, ça veut dire que vous obtenez aussi une joie, une paix intérieure. C'est-à-dire que vous avez des fruits de cette grâce. Et quand vous êtes conscient des fruits de cette grâce, vous dire, mais pourquoi je quitterais le chemin que le Seigneur me demande de suivre ? Alors, bien sûr, il y a toujours des tentations, il y a toujours notre corps qui est présent, hein, avec lequel on doit faire. Mais quand on fait mémoire de toutes les consolations et toutes les grâces qu'on a reçues du Seigneur et tout ce fruit qui est dans notre vie de paix et de joie, eh ben, on a vite fait le tour.
Et comment concrètement vous pouvez recevoir cette grâce? Quels sont les moyens que vous avez mis en place dans votre vie pour recevoir la grâce du Seigneur?
Il y a des moyens qui sont très simples. Vous avez parlé tout à l'heure du pèlerinage de l'Alliance. Mmh. On n'est pas chrétien tout seul. On n'est pas chrétien isolé en disant « je reste chez moi et puis je vais attendre que la grâce me tombe dessus ». Il faut faire des pas. Et le but d'un pèlerinage, c'est justement de faire des pas. Hein, être pèlerin, c'est se mettre en route. Et donc, on a pensé que pour ceux qui sont désireux d'avancer dans leur situation, dans leur discernement et d'avancer avec le Christ, le pèlerinage de l'Alliance, qui va avoir, d'ailleurs qui va se renouveler en 2025, du 28 au 30 mars, ce pèlerinage de l'Alliance est là pour que les gens viennent faire des pas. Quoi. Les personnes séparées, divorcées ou séparées, ayant reçu un mariage sacramentel, viennent déposer leur situation aux pieds de Marie, à la grotte, et reçoivent justement des grâces. Le sanctuaire de Lourdes est un lieu de grâce. Donc il y a des lieux propices pour déclencher cette grâce. Mais le Seigneur ne déclenche pas ces grâces si on ne fait pas nous-mêmes déjà un premier pas. Et le petit pas qu'il nous demande de faire, c'est juste d'aller à Lourdes entre le 28 et le 30 mars 2025 pour justement recevoir la grâce qui correspond à notre état. Voilà.
Oui. Et au quotidien, la place des sacrements, notamment pour nourrir cette fidélité.
Précisément, c'est ce que pour faire suite à ce que les propos d'Emmanuel, c'est que la grâce se vit par les sacrements, à commencer par l'Eucharistie, qui est la grâce des grâces, puisque, comme je disais à Emmanuel, les matins, je viens à mon rendez-vous d'amour. Le Christ se donne à moi et je me donne à lui et j'attends ses conseils pour la journée. Comme ce petit pèlerin à Ars que voyait le curé d'Ars et qui dit « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je l'avise et il m'avise.
Voilà. Donc rendez-vous dans la prière et rendez-vous dans l'Eucharistie, ce sacrement de l'amour par excellence.
Oui,
du don.
C'est d'ailleurs ce que dit à Maurice Laetitia concernant les personnes divorcées vivant seules. À Maurice Laetitia est très clair. D'ailleurs, le texte est très très court, donc c'est très facile à lire. À Maurice Laetitia dit simplement qu'aux personnes divorcées et vivant seules, de prendre leur force dans l'Eucharistie, mais pas leur force pour continuer avec le Christ, justement.
Je voudrais, avant de marquer une première pause, que vous nous disiez un petit peu comment le mouvement, enfin comment la communion Notre-Dame de l'Alliance vous aide à tenir dans la fidélité. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Vous avez parlé effectivement de faire des pas, de faire des pèlerinages, mais pareil, entre deux pèlerinages, il y a ces rendez-vous avec cette communion Notre-Dame de l'Alliance. Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment ça vous aide?
Nous avons une récollection tous les trimestres, dont trois dans l'année, une grande retraite d'été, où quasiment c'est toute la France plus la Belgique qui se retrouve. Ces temps sont extrêmement importants puisque nous avons un intervenant qui, sur un thème choisi par les responsables de la communion, va approfondir ce sacrement. Voilà. Ça peut être la vérité dans le couple, dans notre échec. Ça peut être le mariage, comment vous l'entendez, ce oui, le pardon, la réconciliation, les enfants. Bref, l'abandon, voilà, la souffrance, parce qu'il y a quand même beaucoup... C'est un long chemin avant de retrouver la paix, on ne va pas se le cacher, mais on la retrouve. Voilà. Et ces moments-là permettent aux uns aux autres de parler en vérité. Voilà. Et de s'appuyer sur les frères qui ont déjà fait le chemin, ce que je leur dis, ne restez pas sur votre souffrance, regardez, j'avais 36 ans, c'est un chemin qui est possible à tous,
du moment que vous croyez. Seul.
Et ne restez pas seul. Voilà, vous appelez, on est des quelques membres sur Midi-Pyrénées, où on s'échange les uns les autres quand ça va vraiment mal, voilà. Et on s'épaule, il y a une très très belle fraternité, voilà, tout en transparence et en vérité. Il n'y a pas de masque.
Il n'y a pas de masque. Je vous propose de marquer une pause musicale. Nous écoutons La Voix du Bien-Aimé, interprétée par les Dei Amoris Cantores.
Toujours du regard et me suit.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Comment vivre dans la fidélité à son sacrement de mariage malgré la séparation? C'est la question que nous nous posons ce matin et que nous posons à Marie et Emmanuel, tous deux membres de la communion Notre-Dame de l'Alliance. Je voudrais qu'on revienne sur cette citation du pape François dans un cycle de catéchèse sur les sacrements. Il disait le 2 avril 2014 à propos du mariage, « L'image de Dieu est le couple conjugal, l'homme et la femme. Pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais tous les deux, c'est cela l'image de Dieu. » Comment maintenir cette image de Dieu malgré la séparation? Marie?
Alors maintenir l'image de Dieu dans la séparation, c'est d'abord effectivement... n'est pas une évidence puisque on est séparés de fait par le corps physiquement, donc par l'esprit, parce que sinon on serait peut-être en train encore de pouvoir communiquer, mais mystérieusement le Christ est là et nous on s'adresse à ce Christ pour rester dans cette unité vis-à-vis de notre époux. On le porte devant, on s'est pas compris. C'est plus le vis-à-vis que j'ai habituellement, c'est le vis-à-vis vers le haut qui va faire cette unité en moi et maintenir mon mari, puisque on vous a parlé tout à l'heure de l'Eucharistie, de le porter régulièrement dans cette Eucharistie. Voilà, nous sommes là tous les deux, l'autre a déserté sa place, mais moi je suis là et je veux... On dit dans le roc, nous sommes convaincus que cette unité reste malgré la séparation. Voilà ce qu'on dit au roc, renouvellement du oui au conjoint. Donc, mystérieusement, effectivement, moi, je suis absolument convaincue que cette Eucharistie quotidienne porte mon mari et mes enfants.
Et elle scelle cette unité. Elle entretient l'unité du couple. Emmanuel?
Oui, tout à fait. Comme le dit dans le texte de la Genèse, hein, ils ne font plus qu'un. Nous ne sommes plus qu'un. Et si le... je dirais, un des conjoints a décidé de partir, mais que l'autre reste, il porte celui qui est parti. Hein, nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas un mauvais et un bon. Par contre, nous nous mettons en solidarité avec celui qui est parti, et nous le portons au ciel avec nous aussi. Hein, on n'est pas là pour que se déchirer et maudire l'autre, on est là pour... pardonner, se pardonner aussi soi-même, parce qu'on n'est pas parfait et qu'on a fait beaucoup d'erreurs, c'est évident. Mais on est tous des enfants de Dieu et on sera enfants de Dieu jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on porte et c'est un peu le message qu'on porte aussi et que l'on vit. Et ça nous donne beaucoup d'espérance et de joie parce qu'on sait qu'on porte aussi notre conjoint vers le ciel. Ça, c'est une réalité. Voilà, donc c'est beau. Et d'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique en parle, dans je crois que c'est le numéro, l'article 1606, qui parle du mariage et qui parle du péché dans le mariage. Eh bien, nous sommes bien sûr l'image du péché dans le mariage. On n'est pas fait pour vivre séparés, quoi. Notre mariage, c'était pas dans les plans, hein, dans nos plans de nous séparer. Par contre, c'est une réalité. Nous sommes pécheurs, je suis pécheur, mon épouse est pécheur. Peu importe, nous restons fidèles parce que nous croyons effectivement que le Seigneur nous accompagne dans notre situation, je dirais, qui n'est pas une situation à envier, mais il est toujours présent dans les difficultés. Nous sommes comme un couple d'handicapés, finalement. Un handicapé, personne ne souhaite perdre l'usage de ses jambes, l'usage de son psychisme, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a toute sa dignité. Et notre mariage a toute sa dignité dans cette fidélité.
Alors, accorder au conjoint avec lequel vous êtes séparé, duquel vous êtes séparé, ça peut ne pas être évident, notamment s'il y a des blessures, et notamment des blessures d'abandon ou des souvenirs, des marques de violence. Ça paraît un peu idyllique ce que vous dites sur prendre souci de l'autre, voire même aller jusqu'au pardon. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous en diriez, Marie ?
Effectivement, ce n'est pas du tout évident, mais comme dit Emmanuel, la parole du Christ est importante. On dit le Notre Père tous les jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi. Alors, longtemps, effectivement, j'ai dit c'est trop dur ce que cet homme m'a fait vivre, mais souvent, j'allais en confession et je disais ça, je ne sais même pas si j'ai vraiment pardonné, mais la seule chose dont je suis absolument certaine, c'est que je veux pardonner à cet homme. Je ne sais pas comment faire. Alors, je me tourne vers le Christ parce que, bien sûr, on a fait beaucoup de sessions de guérison, soi-même, et demander, Seigneur, pardonne-lui. Moi, je n'y arrive pas, mais toi, tu peux pardonner. Sur la croix, tu as demandé à ton Père, pardonne-leur. Donc, je te le demande aussi pour que la paix revienne et pour cet homme, pour moi-même et nos enfants.
Voilà. Donc, de même que la fidélité est un chemin, le pardon est un chemin.
Absolument, absolument. Et chez nous, on a effectivement des personnes sur nos, je dirais, des clients, sur notre site internet. Ce n'est pas uniquement rester fidèle au Christ, au sacrement du mariage, c'est aussi apprendre à pardonner. Parce que tant que le pardon ne vient pas, tant qu'on ne travaille pas sur ce pardon, on ne peut pas être heureux. L'amertume gagne le cœur. La fermeture du cœur reste, difficile à vivre et on ne peut pas vraiment être heureux, on ne peut pas être libre. Et donc, travailler ce pardon, travailler aussi sur nous-mêmes, c'est indispensable pour avancer vers la paix et vers, ce chemin de paix avec le Christ et le Seigneur. Le Notre Père en parle, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tout est dit. On ne peut pas faire l'économie ou s'épargner cette démarche de pardon.
Et est-ce que cette démarche, elle doit être formulée à plusieurs reprises ? Est-ce qu'à chaque fois, il y a des étapes pour donner ce pardon, l'accorder ?
Oui, il y a des étapes. C'est pas parce qu'on dit « allez, je te pardonne, ça y est, on n'en parle plus, on passe à autre chose ». Non. Il y a quelque chose qui doit sortir du cœur. Le pardon est à redonner maintes et maintes fois. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Je dis, je pardonne à mon épouse, ça y est, je lui pardonne, voilà, je suis parfait, il n'y a pas de souci. Et puis, vous la croisez dans la rue, je la croise dans la rue, et tout d'un coup, il y a un mouvement de colère qui surgit. Et je dis, tu vois, ton pardon, il n'est pas encore complet. Il faut le retravailler. Dès qu'on voit l'autre et que ça nous fait quelque chose, et que ça nous remue dans les tripes, on se dit, mon pardon, il n'est peut-être pas encore complet. Il faut que je le travaille. Mais je suis d'accord pour le travailler. Je suis d'accord pour aller jusqu'au bout. Et ça aussi, c'est une grâce.
C'est une grâce. Marie, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est exactement ça. Les conséquences du divorce parfois sont tellement désastreuses que lorsqu'on se met en face, on se dit mais c'est pas possible. Et puis on revient vers le Christ. Voilà, je me suis mis en colère. Voilà, Seigneur, je te demande pardon, mais pardonne aussi à cet homme. Voilà, je veux lui accorder mon pardon, donne-moi une solution pour que mon cœur s'apaise. Voilà, c'est toujours le retour vers ce Christ qui fait le lien entre nous deux.
Oui, c'est ça, voilà. Et qui est la source.
Et qui est la source.
Vous avez choisi de ne pas contracter de nouvelle union après votre séparation. Quels sont les fruits d'un tel renoncement ? Pour vous-même d'abord.
Moi, je dirais que les fruits, c'est la paix. C'est vraiment une vie en paix et avec le Seigneur. Il y a une très belle phrase de l'Évangile, je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais elle dit ça. « Celui qui garde mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. » Donc voilà, oui, je suis seul, je suis dans mon appartement, seul, mais le Christ est bien présent et le Père aussi. Et donc, je ne suis pas seul, en fait. Nous avons cette solitude habitée et qui finalement, on voudrait pour rien au monde la quitter.
Et c'est cette solitude qui peut faire peur justement quand on fait le choix de rester seul, de ne pas aller, comme vous le disiez au début de cette émission, Emmanuel, suivre le sens du monde où les uns et les autres disent « mais pourquoi tu ne refais pas ta vie ?» Cette solitude peut faire peur et en fait la paix d'accepter.
Exactement, cette solitude elle peut faire peur si le Christ n'y est pas. Par contre, dès que vous, on en parlait tout à l'heure, dès que vous entrez dans une démarche de pèlerinage, une démarche de « je me déplace vers le Christ, je vais au sacrement, je décide de me nourrir des sacrements, du sacrement de réconciliation, des deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas aller au sacrement de réconciliation, de l'Eucharistie sans sacrement de réconciliation. Donc il y a tout un parcours, un chemin à faire. » Il est évident que cette solitude, la présence du Christ va prendre de plus en plus de place dans notre vie. Et il va s'installer dans notre vie et on en est très heureux.
Donc le Christ est votre compagnon de route, si on peut dire.
Absolument. Oui.
Outre le fruit de la paix, est-ce que vous pourriez nous donner un autre fruit ?
Au-delà de la paix, c'est la joie d'être en Christ. La joie d'être en lien avec lui et de c'est vrai qu'on l'expérimente même dans la vie quotidienne, sa présence. Et ça, c'est comme disait une des sœurs qui a écrit un livre, un de perdu, Dieu de retrouvé. Et c'était notre joie.
Oui. Et cette joie perdure malgré les épreuves, malgré les difficultés. Vous avez l'un et l'autre des enfants avec des difficultés forcément dans l'éducation. Est-ce que c'est quelque chose de continu, cette joie ?
C'est quelque chose de continu, heureusement, parce qu'on est comme tout être humain, on a besoin d'être heureux, sinon ce n'est pas tenable. Ce n'est pas qu'une vie de sacrifice, cette joie nous est donnée par le Christ. Et je vous dis de manière concrète, je vous donne un exemple, dans mon cas particulier, j'avais deux enfants en bas âge, le père ne s'est absolument pas occupé de l'éducation. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu n'es pas là, ces enfants seront perdus. Ils ont besoin d'un père. Et ça, concrètement, je l'ai expérimenté, qu'il a été là.
Et donc le Seigneur s'est occupé de vos enfants.
Voilà.
Vous auriez un exemple à nous donner ?
Ou un exemple où j'ai vu que mon fils, l'aîné a été très, très, très touché par le divorce. Donc à un moment de son adolescence, ça a été très dur. Et je lui ai dit, il fréquentait de mauvais copains. Et à une fête, je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas cet enfant, il se tuera. Et ce soir-là, j'avais un pressentiment, j'ai passé mon temps à prier. Je t'en supplie, Seigneur, je n'ai que toi pour l'aider. Si tu ne l'arrêtes pas, je ne sais pas ce qui va se passer. J'avais une intuition. À 3h du matin, effectivement, le téléphone a sonné, c'était la police. Et j'ai paniqué complètement. Et il m'a rassuré en me disant, il ne s'est rien passé, madame. Il était parti avec des majeurs. Ils ont bu comme des trous en voiture vers la ville. Ils ont tagué toute la ville. Mais je vous demande de venir récupérer votre enfant parce que c'était le seul mineur. Et j'ai rendu grâce parce que c'était un événement. Mais quand il a dit, tu vois, je ne vais pas dire son prénom, je lui ai dit, tu vois, tu ne m'empêcheras jamais de prier pour toi. Mmh. Tu peux me dire non à tout, mais ça, tu ne m'empêcheras pas de prier pour toi. Mmh. Donc ça a été vraiment la présence de Dieu qui tenait mes enfants au lieu de sombrer dans la révolte. Et depuis ce moment-là, lui-même a commencé à s'intéresser à « mais qu'est-ce qu'elle fait cette maman à prier tout le temps là ?»
Voilà. C'est un témoignage pour vos enfants de rester fidèles. Dans quelle mesure c'est un témoignage ?
Alors, je dirais que c'est un témoignage parce que c'est un socle. Notre couple a explosé. Oui, c'est vrai que notre vie conjugale a été douloureuse, même pour nos enfants, parce que il y avait une tension énorme avant qu'on divorce. Il y a eu quand même un passage, une période où la tension entre nous, entre mon épouse et moi, a été vraiment très, très violente, douloureuse, angoissante, et les enfants le ressentent, ça. Donc le divorce a été plutôt une libération. Enfin, ils divorcent. Enfin, ils se séparent. Parce que, c'était intenable pour les enfants. Ils en souffraient énormément. Et le fait que je sois resté seul, Mon épouse aussi, je fais partie de ceux où l'épouse, par contre, est restée seule aussi. Eh bien, ça a donné quand même une consistance, une solidité. Et je pense qu'aujourd'hui, mon fils est mon aigré d'être resté seul, tout simplement. Parce que je crois toujours à la famille. Je sais qu'il est issu de sa mère et que sa mère est toujours mon épouse. Et ça, c'est solide pour l'enfant. On donne une base solide. Quand lui, il va se marier plus tard, il ne va pas se dire « je l'épouse aujourd'hui, bon, ben, peut-être sera demain une autre ». Il a vu par l'exemple aussi que son père, eh ben, il tenait à cet engagement de toute sa personne. On se donne, dans le mariage, on se donne tout entier. On ne se donne pas à moitié ou pour un certain temps. Non, on se donne complètement, en entier. Comme le Christ s'est donné en entier pour l'humanité. Donc voilà, il y a une similitude. Et on n'arrive pas à, comment dire, on n'évangélise pas que par la parole, on évangélise par les actes, par les actions. Et là, c'est un acte, en fait, que l'on pose. Oui, et on voit les fruits dans nos retraites, puisque dans nos retraites, les enfants de personnes divorcées viennent. Moi, mes enfants sont trop grands pour venir dans les retraites, mais nos retraites sont ouvertes à des enfants de 4 à 18 ans, grosso modo. Et on voit que le changement de comportement des enfants. Pour les premiers qui arrivent, ils sont fermés, parce qu'ils subissent le divorce, subissent cette séparation. Puis après, ils discutent avec d'autres enfants et des parents qui restent fidèles également, et on voit leur comportement changer. Et vraiment, ils changeaient tellement bien qu'il y en a même qui se sont mariés entre eux. Oui, c'est... voilà, donc cette paix que l'on reçoit, elle est diffusante. On la diffuse autour de nous et on la diffuse aussi aux enfants. Voilà.
Quel témoignage pensez-vous donner aux couples mariés à travers votre engagement de rester fidèle dans votre sacrement de mariage malgré la séparation, Marie?
Alors, le témoignage qu'on peut apporter, hein, on a eu un couple de diacres hier qui nous a enseigné et qui nous a donné ce retour. Vous nous fortifiez dans le sacrement de mariage. On se retrouve encore plus fort et ce que vous vivez nous aide énormément à prendre conscience de la beauté de ce sacrement.
Et vous me disiez, en préparant aussi cet entretien, que vous aviez été confronté à des situations de couples qui étaient aussi dans la difficulté et qui voulaient faire le choix du divorce. Et là aussi, votre exemple les a fait réfléchir?
Oui. Puisque, ayant traversé ce tsunami, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, je conseille autour de moi, lorsqu'on me parle, on va divorcer, j'ai dit... Est-ce qu'il n'y a vraiment pas un moyen de s'arranger, puisque la traversée n'est pas si simple que ça? Vous me voyez sourire, blaguer, rigoler et faire comme tout le monde et vous dites nos enfants, on a l'impression que ce n'est pas des enfants de divorcés. Mais j'ai dit derrière tout ça, il y a eu énormément de souffrances et beaucoup de combats. Ça ne se fait pas comme ça. Alors moi, je l'ai traversé, je peux vous dire que c'est possible. Et je le dis à ceux qui sont en train d'être dedans. Mais je préfère que vous évitiez de faire ça. Voilà. Et effectivement, ils réfléchissent à deux fois. Et en général, ils renoncent au divorce. Ils préfèrent négocier ensemble. Puis surtout, je l'ai vu autour de moi, c'est que quelques temps après la tempête est passée, et ils sont très heureux ensemble. Mmh. Et ça, c'est ma joie.
Et ça, c'est le témoignage de votre fidélité, Emmanuel?
Oui, alors effectivement... Nous sommes d'ailleurs en lien, la communion Notre-Dame de l'Alliance est très très proche, ça peut peut-être vous surprendre, mais avec les équipes Notre-Dame. Parce que les équipes Notre-Dame s'adressent à des personnes qui vivent la conjugalité, qui sont mariées dans le sacrement du mariage, et qui sont ensemble sous le même toit. Mais c'est pas parce que vous êtes ensemble sous le même toit que tout va bien. Hein, dans les équipes Notre-Dame, il y a aussi des divorces, il y a aussi des séparations. Et donc le témoignage qu'on apporte devant les équipes Notre-Dame, c'est de dire, mais votre sacrement du mariage, il va bien au-delà de votre relation que vous vivez ensemble. Le Christ est vraiment présent en vous et dans votre relation. Et le fait qu'on reste fidèle malgré la séparation ou le divorce, on leur montre une facette de la réalité, une facette de cette réalité du sacrement du mariage, c'est-à-dire de la présence de Dieu dans cette union. Et on prend pas ça à la légère, il faut la prendre au sérieux. Et donc si on a un chemin spirituel à faire, il faut le faire avec cette idée que ce sacrement, il est vivant et il ne s'arrête pas au moment de la séparation. Que s'il se sépare, eh ben non, le sacrement, lui, va toujours demeurer. Parce qu'il est indissoluble et ce n'est pas une parole en l'air.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Marie, pour votre témoignage de vérité sur Radio Présence. À noter dans les agendas, peut-être, le prochain pèlerinage à Lourdes destiné aux personnes mariées vivant seules suite à une séparation. Vous l'avez dit, Emmanuel, du 28 au 30 mars 2025, nous aurons l'occasion de reparler d'Issida.
Merci.
Merci.